Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Bienvenue dans cette équipe est sauvage semi-confinée qui vous accompagne chaque après-midi sur Europe 1 avec Mathieu Noël, sa grande complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1 toujours prêts à s'affronter à coups de chronique pour grimper sur la plus haute marche du podium. Place à notre compilation du week-end avec pour cette première partie, il y aura bien la recette d'Olivier Pouls, aujourd'hui c'est une tarte, l'actionnariat salarié dont nous parlera Axel de Tarlé, Jean-Philippe Ballas nous dira comment photographier le temps qui passe, Farah Kessri nous dira pourquoi les baleines sont nos alliés. Quant à Anne Le Gall, eh bien, nous invite à nous reconnecter aux autres grâce à un site interactif. Et puis Mathieu Noël, lui, prendra des nouvelles du réalisateur d'OSS 117, Michel Hazanavicius, et du créateur Titeuf, Zep.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, la compétition haletante qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et sous l'œil de ma précieuse Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous serez comme d'habitude Eva, la grande arbitre de ce combat décisif qui se déroule chaque après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Combat qui vise à déterminer qui parmi les journalistes de la rédac aura droit à une augmentation et qui, au contraire Eva, finira
dans des chambres de bonne avec toilettes et point d'eau sur le palier.
Oh non.
C'est le destin qui les attend. Avant de vous présenter nos champions, vous le savez, chaque après-midi, en attendant de pouvoir les accueillir à nouveau en studio, nous sommes en ligne avec des personnalités qu'on aime. Aujourd'hui, un dessinateur qui fait marrer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, surtout avec son dernier ouvrage, Happy Sex 2, réservé aux adultes. Bonjour Zep.
Bonjour.
On vous avait reçu pour Happy Sex 2 il y a quelques temps maintenant. Vous étiez confiné en Suisse, chez vous. Vous me dites que vous êtes du côté de Genève, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Est-ce que votre atelier, il est chez vous? Est-ce que le confinement, finalement, n'a pas changé grand-chose pour vous? Certains auteurs nous disent que c'est nous qui avons découvert la vie d'auteur.
Exactement.
Durant ce confinement.
Bienvenue dans notre quotidien. Moi, ça fait 30 ans que je suis confiné dans mon atelier. Et ça va, ça n'a pas été un gros choc.
Mais sauf qu'il y a quand même les enfants. La dernière fois, j'avais fait une gaffe. Je m'étais trompé sur le nombre d'enfants. Il y en a 5, c'est bien ça, Zep?
Oui.
Bon, ça, 5, c'est le chiffre réel, mais en confinement, le chiffre ressenti, c'était quoi?
On va dire 50.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc le célèbre dessinateur Zep, créateur du personnage de Titeuf, qui nous accompagne un peu cet après-midi. Vous faites partie, Zep, de ces auteurs qui non seulement nous ont accompagnés sur la toile pendant cette crise sanitaire, mais vous êtes aussi de ceux qui se sont engagés concrètement et qui d'autre que Titeuf, qui vous suit depuis bientôt 30 ans pour incarner cet engagement. C'est la première crise sanitaire que traverse Titeuf.
Oui, c'est la première. J'espère qu'il n'y en aura pas 50, mais...
Vous avez participé avec d'autres dessinateurs à la campagne de prévention Stop Covid-19 en réalisant des affiches à l'attention des écoles, des salles d'attente chez le médecin afin d'expliquer aux enfants les bons gestes pour se protéger et protéger les autres aussi du virus. Un dessin, ça peut être plus efficace finalement, surtout auprès d'un jeune public que n'importe quelle campagne gouvernementale, officielle, un peu chiante, qu'on peut le dire.
Ouais, un peu chiante. Et puis aussi, il y avait énormément de discours de tous bords. Tout le monde s'est autoproclamé expert, donc c'était bien un moment de rassembler tout ça et puis d'avoir le discours officiel des hôpitaux qui, même si il a changé plusieurs fois au cours de la crise, et je pense que dans les mois qui viennent, on va encore nous dire qu'on a fait plein de conneries, mais il fallait un moment tenir un discours fixe. Et puis c'était une manière de le faire passer de façon un petit peu plus marrante, parce que bon, c'est clair que ça a été une crise dramatique, il y a des gens qui sont morts, mais majoritairement ça a plutôt atteint tout le monde dans des gestes du quotidien, en nous forçant à vivre une vie un peu étrange en fait, à porter les masques, pour les gamins se laver les mains 10 fois par jour, vous imaginez le choc. Donc tout ça, c'était plutôt prétexte à faire des dessins amusants.
Vous, d'un point de vue personnel, comment vous avez vécu cette période? Beaucoup d'artistes nous disaient qu'ils avaient eu justement que c'était, même s'ils étaient confinés, c'était pas une période propice à la création parce qu'ils étaient un peu sous le choc, ils ressentaient une forme de sidération. Est-ce que ça a été votre cas ou bien vous avez été créatif comme d'habitude?
Non, moi j'ai trouvé que c'était assez agréable. C'était, disons qu'on était plus sollicités parce qu'on nous a beaucoup sollicités pour les réseaux sociaux. Mais mis à part ça, moi je travaille sur mes livres. Et puis, comme je vous dis, ça fait 30 ans que je travaille dans un atelier qui est chez moi, donc à l'étage, ça fait que ma vie, elle est de passer du rez-de-chaussée au premier. Ça ne m'a pas bouleversé énormément.
Vos enfants, parmi cette ribambelle d'enfants que vous avez, on peut le dire, est-ce que justement vos dessins de Titeuf,
vous les avez testés
prenant
les
règles
enfants,
de distanciation sociale, ça marche sur eux? Vous les avez testés sur vos propres enfants?
Ouais, ça marche. Bon, la plus petite a 12 ans, donc maintenant elle commence à être assez grand, mais oui, on a vu un petit peu, effectivement, eux, ils soulèvent tous les paradoxes. boxe quand on leur dit, voilà, il faut faire ça, mais ça, on peut pas jouer au foot, mais on peut aller au magasin, ils comprennent pas trop. C'était aussi assez difficile de les contenir dans leur envie sociale. On a été moins confinés, moins durement en Suisse qu'en France. Hein. On n'avait pas un confinement aussi strict que vous. Donc, on pouvait sortir, on pouvait croiser des gens, les voir, mais à distance. Alors, nous, c'était 2 mètres. Hein. Vous, je crois que c'est 1 mètre.
Oui.
Nous, c'est 2 mètres. On a imaginé que, comme on s'exprime un petit peu moins bien que les Français, on doit questionner un peu plus, j'imagine. Donc, ça doit être quelque chose comme ça.
Et comment ça se passe quand un Suisse croise un Français?
Il a très très peur. On se demande comment il a pu traverser la frontière, parce que c'est assez compliqué quand même.
Oui,
on a
mis
des blocs en béton. Enfin, on a l'impression d'être revenu dans les années de la guerre. Quoi.
Comment vous disiez que vous étiez très sollicité dans cette période en tant que dessinateur. Comment vous choisissez de participer à tel ou tel? Ça doit être difficile de dire non. Vous avez participé, j'ai vu, à la campagne café et chocolat pour les soignants.
Ouais.
Ça, c'est votre côté suisse. On peut pas refuser quelque chose qui en a très
bien.
Chocolat quand on est suisse, voilà.
C'est vrai que j'avoue que j'ai du mal à me mobiliser pour, par exemple, pour applaudir tous les soirs. Je me sens un peu couillon sur mon balcon à applaudir. Mais je trouve ça super. Et quand il y a eu le message de soignants qui ont dit, écoutez, c'est sympa, ça nous fait chaud au cœur, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir du bon café et du chocolat. J'ai trouvé que l'initiative était plutôt belle. Donc là, j'ai dit oui. Après, c'est aussi le kiff du dessin. Je me dis, tiens, est-ce que je peux faire un dessin qui est... Est-ce que c'est un sens qu'on me demande à moi, ou est-ce que ce serait pas mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse? Et là, généralement, je renvoie et vite la patate chaude à un copain. mais voilà, il y en a eu pas mal. Puis après, il y a toutes sortes d'initiatives. Évidemment, tout le monde était désœuvré, tout le monde s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on faisait une campagne avec ça, on va demander à Zeb de faire un dessin. Donc, beaucoup de gens ont eu cette bonne idée pour s'occuper de m'occuper, mais j'ai pas pu répondre à tout.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Des infos, des découvertes, de la bonne humeur et surtout une compétition qui se poursuit avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Anne Le Gall.
Ils se mettent joyeusement sur la gueule chaque après-midi au service de votre bonne humeur et de votre culture G. Parmi les journalistes d'Europe 1 avec nous aujourd'hui, le lettré de la bande Nicolas Caro et notre expert environnement, la pétillante Anne Le Gall, qui pétille car elle habite ici les Moulineaux, banlieue où la verdure lui a permis de garder le moral et le sourire par rapport aux Parisiens qu'elle redécouvre avec un certain effarement, pas vrai Anne?
Ils sont tout blancs, tout gris, hein, tout moches, ils sont poilus en plus.
Oui, c'est vrai que le confinement ne nous a pas fait du bien. Et justement Anne, vous nous proposez aujourd'hui de reconnecter avec nos semblables. Mais comment?
Mais comment? Par une expérience vertigineuse, je vous propose d'aller faire un tour sur un site de données démographiques mondiales, non pas parce que vous vous ennuyez devant votre ordinateur, mais parce que vous êtes, je le sais, ouvert d'esprit, que vous êtes citoyen du monde.
Oula.
Alors c'est parti pour cette expérience au milieu des données mondiales. Vous tapez population au singulier .io dans votre barre de recherche et vous tombez pour commencer sur un compteur qui vous estime en temps réel combien nous sommes sur Terre. Donc
c'est
nous
génial,
sommes
ça.
Actuellement, on le voit avec le compteur, plus de 7 750 300 000 habitants. Alors il y a 3 naissances toutes les secondes, donc il y a à peu près 200 bébés qui sont nés depuis le début de cette chronique. Ensuite, et là c'est une expérience qui peut donner le vertige, le site vous propose d'entrer votre date de naissance, le nom du pays dans lequel vous vivez, et à partir de là, il calcule toute une série d'infos sur votre place dans le monde. Donc j'ai appris que je devais vivre normalement jusqu'au 30 novembre 2064.
Ah, c'est horrible.
C'est 7
c'est pas mal.
Ans d'espérance de vie. Donc c'est pareil pour vous Eva à peu près.
Hein. Ah bon, ouais, merci.
C'est 7 ans d'espérance de plus que la moyenne mondiale parce qu'on a la chance de vivre en France. Et pour vous Mathieu, ben, a priori, c'est une bonne nouvelle, vous devriez faire était le réveillon du passage à l'année 2070.
mais dans quel état? C'est la question
dans quel
qui
état,
se pose.
Ouais.
Dans quel état,
ouais.
Alors, dans quel état? Sans doute mieux que moi, parce que vous faites partie, Mathieu, de la moitié de la population française la plus jeune. Contrairement à moi, puisque j'ai découvert que j'étais plus vieille que 55% des Français et que 71% des habitants de la planète. Ça met une petite claque.
Ouais.
Et j'ai découvert aussi que 10 977 personnes dans le monde sont nées le même jour, à la même heure que moi.
Ah
que
oui.
Le téléphone portable créé en 83 est né avant 45% de la population française. Bref, en bougeant les curseurs, on peut voyager comme ça dans le temps, dans l'espace. Et c'est assez bluffant.
Alors moi, ça m'amuse follement. J'adore ces statistiques, mais ça sert à quoi concrètement?
Alors, ça sert à rendre concrètes des données très officielles de l'ONU qui ne nous disent rien évidemment quand elles sont dans des tableaux. Mais comme ce site les replace et nous replace au milieu de tout ça, franchement, ça nous redonne la conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on sera 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2049, alors que le premier milliard d'êtres humains sur Terre n'a été atteint qu'en 1800. Donc la population de la planète a déjà été multipliée par 7 en 2 siècles. Nous sommes à la fois de plus en plus nombreux à vivre mieux, plus vieux, mieux éduqués, en bonne santé. Et en même temps, les écarts entre les riches et les pauvres se creusent. Il y a une pression sur les ressources. Bref, le site permet de réaliser que l'avenir est un immense chantier collectif, puisqu'on vit sur une planète finie et qu'on doit cohabiter, quoi qu'il arrive. Donc c'est une invitation à ne pas trop se regarder le nombril, mais à garder l'esprit ouvert, ouvert tout simplement.
Johnny pour nous faire plaisir.
Mais, pourquoi
parce qu'on est tous ensemble, il faut jouer collectif. Petit souvenir de la Coupe du Monde 2002. Mathieu, c'est pour vous détendre après les chiffres.
Ça risque pas de me détendre. Vous savez ce qu'on a fait en 2002 à la Coupe du Monde, et vous savez pourquoi cette chanson est devenue un tube, à l'inverse, un anti-tube culte.
Ah oui,
parce qu'on s'est fait éliminer comme des cons en 2002.
Ah, mais
c'était
ça
une
fait
catastrophe.
Toujours sourire.
Ah oui. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Anne Le Gall pour tous ces chiffres. Eva, un dernier mot.
Sacha Distel.
Merci.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Alors que la question est sur toutes les lèvres, les chercheurs du monde entier s'interrogent sur les moyens les plus efficaces pour endiguer le réchauffement climatique. Planter des arbres, capturer le CO2 et l'enterrer sous terre, ou simplement limiter nos émissions. Mais les baleines, qui sont de véritables puits de carbone, pourraient être une piste dans la lutte contre le réchauffement climatique. On en a parlé cette semaine avec Mathieu Noël, Eva Rock et Farah Kestri.
Elle est dans notre émission plus qu'une simple chroniqueuse parmi d'autres, l'ambassadrice de la beauté du monde et aujourd'hui du monde marin. Où le plus grand des mammifères est en danger, un animal qui fascinait particulièrement le commandant Cousteau.
Tu entends le chant lointain des baleines chanteuses ?
Merveilleux.
Non, ça c'est la sirène d'une barge de déchets toxiques.
Farah Kestri, vous êtes notre veto préféré et cet après-midi vous nous expliquez pourquoi nous avons à la fois un devoir moral évidemment de protéger les baleines, mais aussi un intérêt concret.
Absolument. C'est vrai que les mammifères marins comme les baleines sont les plus grands animaux du monde. Alors juste pour vous donner un exemple, la baleine bleue mesure jusqu'à 30 mètres et pèse près de 150 tonnes. Rien que sa langue pèse entre 2 et 4 tonnes. C'est le poids d'un éléphant, vous imaginez
Une langue qui pèse le poids d'un éléphant ?
Voilà, c'est juste la langue.
Nature.
La langue pèse le poids d'un éléphant. Donc ces animaux qui sont quand même les plus grands animaux du monde ont la capacité d'emmagasiner du carbone et leur carcasse peut retenir 33 tonnes de gaz carbonique par an, alors qu'un arbre, lui, n'absorbe que 21 kg de CO2 par an. Donc si vous faites les comptes, on peut dire qu'une baleine fait donc le travail d'environ 1500 arbres. Et c'est ce qui, en termes économiques, lui donne de la valeur. On estime que chaque baleine vaut environ 2 millions de dollars, alors les économistes du FMI ont calculé le prix du gaz carbonique plus la valeur écotouristique de ces cétacés.
Mais alors d'où provient leur prodigieux pouvoir ?
Eh bien tout simplement de leur alimentation. Vous savez que les baleines n'ont pas de dents, contrairement à leurs cousins orques et dauphins. Elles ont plutôt des fanons pour filtrer l'eau et récupérer le krill. Et le krill, ce sont des petits crustacés qui consomment du phytoplancton. Et je vous rappelle que le phytoplancton capte 40% des émissions de gaz carbonique produits par l'homme, tout en rejetant dans l'air 50% d'oxygène. Donc vous voyez, 40%, elles prennent du gaz carbonique et elles le remplacent par de l'oxygène. Donc c'est vital pour nous. Et donc les baleines, en se nourrissant du krill, elles vont avaler ce gaz carbonique, l'emmagasiner dans leur graisse. C'est un stockage qui va durer très longtemps, puisqu'une baleine peut vivre jusqu'à 100 ans. Et après leur mort, quand leur corps coule au fond de l'océan, eh bien la carcasse garde ces tonnes de gaz carbonique pendant des siècles. Et le CO2 va pas remonter à la surface, il va progressivement être consommé par les fonds marins pour former de nouvelles niches de vie, un peu comme les troncs d'arbres morts dans les forêts.
Et les baleines ont aussi un impact indirect par leurs excréments, Farah. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, absolument, les baleines. Il faut savoir que les excréments des baleines remontent à la surface.
Et c'est quand elles remontent.
Vous savez, quand les baleines remontent à la surface, elles vont reprendre de l'oxygène et elles vont éjecter en même temps leurs excréments. Hein. Ça fait vraiment des grandes nappes de petites bouses.
Ah, donc nager avec les baleines, c'est pas trop un kiff, quoi, en fait.
Pas au moment où elles remontent. Hein. Je vous déconseille aussi de nager avec les baleines parce qu'elles ont une mauvaise vision et elles peuvent vous avaler quand elles vont aspirer l'eau. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de nager avec les baleines.
Effectivement,
quand elles libèrent leurs excréments, il faut savoir qu'elles vont libérer en même temps des quantités d'azote, de phosphore et de fer qui vont servir justement à nourrir le phytoplancton. Et il va en plus servir à absorber 37 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est vraiment l'équivalent de 4 forêts amazoniennes. Vous voyez que c'est vraiment, l'impact est colossal. Et une grande partie de ce phytoplancton hein, qui est consommé par le krill va être consommé à son tour par les baleines, les oiseaux marins et certains poissons et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un cycle qui est vertueux et il n'y a pas du tout de déchets. À chaque fois, c'est recyclé. Et au total, on comptabilise la contribution fécale des baleines, en plus de ce qu'elles absorbent comme gaz carbonique, eh bien à 1,7 milliard de tonnes de CO2 qui seraient retirées de l'atmosphère chaque année grâce aux baleines. Donc c'est vraiment vital de sauver les baleines. C'est vital pour notre survie à nous, hein, pas simplement pour les baleines.
Sauvons les baleines, c'est votre message par la Catherine. Et je vous félicite parce que vous avez placé l'expression que je n'avais jamais entendue dans une chronique, l'expression « contribution fécale ». J'espère que nos auditeurs l'auront bien noté. Merci Farah. Et à titre personnel, je me souviendrai toujours de l'émotion d'Eva la première fois qu'elle a vu une baleine en vrai.
Waouh !
Bon, ça en fait, c'était la première fois elle m'a vu en maillot de bain en vrai, mais c'était la même chose pour les baleines.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Une équipe sauvage emmenée par Mathieu Noël. Notre compilation du week-end se poursuit avec, dans un instant, Eva Rock qui scrutera les réseaux sociaux pour y dénicher des moments décalés. Mais avant, on prend des nouvelles de Michel Hazanavicius.
Vous écoutez l'équipe sauvage semi-déconfinée, puisque si les journalistes nous ont rejoints en studio, Eva, nos invités, eux, sont toujours en ligne avec nous aujourd'hui. Un immense réalisateur. Il y avait même Eva, en référence à un de ses films cultes, le réalisateur le plus classe du monde.
Moi, je pense qu'il avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu le titre.
Je vois que vous êtes fan aussi, Eva. Michel Hazanavicius est au téléphone avec nous cet après-midi pour fêter la sortie de La classe américaine, le livre. Alors, Michel, le grand public vous connaît pour The Artist, 5 Oscars, on le rappelle, la série DOSS 117. Mais les vrais fans connaissent tous votre œuvre de jeunesse co-réalisée avec Dominique Meseret. Comment expliquer La classe américaine aujourd'hui? C'est vrai que ça part d'une demande de Canal+, à la base, ça devait être un hommage au cinéma américain et puis vous êtes parti en vrille.
Non, en fait, les producteurs savaient à peu près où, parce que c'est le troisième d'une série comme ça de films de détournement qu'on a fait, et il se trouve que le patron de Warner Télévision France était complètement fan, donc il nous a couvert, il savait très bien où on mettait les pieds. Par contre, quand ils ont vu le truc fini, ils ont dit on passe une fois sur Canal+, et après, plus personne ne voit ce truc, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça, tant mieux, heureusement.
On invite tous les auditeurs à découvrir donc ce film qui est disponible gratuitement sur YouTube. Voilà. Mais donc dans le livre, il y a vraiment un avantage comparatif très fort, puisqu'il y a une immense préface avec, mais vraiment qui est drôlissime. Ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça en lisant. Donc, c'est évidemment une notice historique et littéraire, une introduction par Alain Vecaux et Raymond Fucre. Et alors, je lis juste l'intro pour donner le ton. Quand en 1993, Michel Hazanavicius et Dominique Meseret se lancent dans l'écriture de La classe américaine, ils cherchent une forme dramaturgique singulière. Ils portent en eux l'intuition d'une œuvre qui, empruntant la voie de l'hommage à une certaine tradition culturelle, y introduira une critique radicale, produira un choc, conduisant à une prise de conscience de l'aliénation qu'elle recèle idéologique, morale, existentielle et esthétique.
Pour dire que c'est juste un détournement avec des images et des faux dialogues.
C'est vraiment drôlissime. Ça vous fait rire? Est-ce que quand vous regardez, est-ce qu'il vous arrive, vous, Michel Hazanavicius, comme vos fans, de regarder parfois, de retomber sur La classe américaine? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'à l'époque, vous avez 25 ans quand vous l'avez réalisé, est-ce que vous imaginiez que ça devrait être comme ça un objet culte?
Non, pas du tout, parce que c'était une émission de télé, donc par définition, c'est censé être éphémère. Et puis, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il n'y avait aucune raison de penser que les gens pourraient le regarder comme ça aussi facilement. Et voilà. Après, pour répondre à votre première question, je le regarde... Pas vraiment. Là, j'ai dû le regarder parce que comme j'ai fait les illustrations du bouquin, voilà, il a fallu que je le regarde, etc.
Ben, je le ferai différemment forcément aujourd'hui, mais bon, je suis tellement comment dire content que le truc continue à vivre tout seul, qu'il y ait des gens. Il se passe pas une semaine sans qu'on me parle de ce film, donc si vous voulez, c'est un,
parce que les jeunes le redécouvrent.
C'est un bon compagnon ce film.
Michel Hazanavicius, vous parliez des illustrations que vous avez réalisées là pour le livre. On découvre notamment dans Magistral, l'émission de Canal+, vos cahiers sur lesquels vous commencez vos histoires. Il y a beaucoup de dessins qui sont très très bien réalisés. C'est vraiment une œuvre d'art. Est-ce que vous avez une frustration à pas être illustrateur, à pas être peintre, je sais pas, mais j'ai trouvé que vous aviez un trait qui était incroyable, qu'on découvre à la fois dans Magistral et dans ces illustrations.
Ce qu'elle veut dire, c'est que vous avez un peu tous les talents et que vous êtes un peu dégueulasse.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Je chante un peu aussi, je fais de la culture.
J'en étais sûr.
Si ça vous intéresse.
J'en étais sûr.
Écoutez, non, j'ai pas vraiment de frustration, mais j'ai des amis qui sont dessinateurs et je trouve ça hyper classe quand j'ai un copain qui me dit il faut que je finisse mon dessin de trucs, que je dois rendre et tout. C'est hyper beau de partir de rien, de fabriquer une image, et puis voilà, c'est votre métier. Non, j'adore ça, ouais.
Alors Michel, flagornerie sur toute la ligne, non. Ma dernière question, c'est quand même une question piège, mais en tant que fan de SS117, je ne peux pas la poser. Bah non, parce que les fans s'interrogent. Oui. Pourquoi c'est pas vous qui êtes aux commandes du 3? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le scénario vous convenait pas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour cette SS117-3 que réalise Nicolas Bedos?
C'est vraiment une question piège. Et écoutez, ils m'ont fait une proposition que je ne pouvais pas accepter. Voilà.
Financière ou sur le scénario?
Non, surtout sur l'ensemble. Non, c'était pas financière. Ça n'a même pas été jusqu'au financier.
D'accord.
Non, c'était l'ensemble, si vous voulez, qui était pas. On pouvait pas travailler. Voilà. Il s'est avéré qu'on pouvait plus travailler ensemble, quoi.
D'accord. Bah, mais c'est triste pour tous les fans de SS117, que j'ai revu encore hier soir, n'est-ce pas?
Non,
une fois
c'est
de plus,
pas vrai.
Une 17e fois. Ça fait du bien. Merci beaucoup,
fatigue.
Michel Hazanavicius. Je rappelle le livre. Vous m'avez piqué le livre. Eh ben non, rendez-le-moi. La classe américaine, effectivement, chez Alary Édition, pour découvrir les coulisses de ce film culte. Merci beaucoup, Michel Hazanavicius, d'avoir passé un petit moment
merci
sur Europe 1 cet après-midi.
Merci beaucoup.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est l'heure du mix, Eva.
Mais oui, avec Sébastien Bordenave, tous les jours, on scrute les réseaux sociaux pour y dénicher des moments cocasses, décalés, intéressants. Alors, au menu du jour, écoutez bien, le moine bouddhiste français Mathieu Ricard, qui était notre invité mardi dernier, il participait hier à une conversation vidéo à 4 sur le déconfinement. Vous allez entendre ce qu'il en pense. Grâce à Louis Chédid qui a posté cette vidéo sur son Facebook, vous allez découvrir un artiste appelé Rod P, qui vient de réaliser une très belle reprise de Tabo, pas être beau. Notre ami Bertrand Huscla de Brout, qui campe un chef informatique qui nous aide à télétravailler. Et puis on commence tout de suite avec Tété. Il a réussi à recueillir 70% des financements nécessaires pour son album de reprise enregistré avec des anonymes qui étaient confinés. Il reste 30% à recueillir de financement. Allez-y, vous pouvez investir. Et il reprend un tube de Dépêche Mode que vous allez reconnaître tout de suite.
Your own personal Jesus. Someone who hear your prayers.
J'étais dans un endroit très magnifique et sauvage de l'Islande. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je dis, c'est l'émerveillement. Je me suis dit, l'émerveillement, ça agrandit notre esprit. Ça dissout notre ego. Et devant cette immensité, l'ego, il est maintenant, on voit plus très bien où il est. Ça induit aussi un respect. Parce que ce qui vous émerveille, on va pas le saccager, bien sûr, on va le protéger. Et donc le concept souvent dont parle le Dalai Lama de non-violence vis-à-vis des êtres humains, non-violence vis-à-vis des autres espèces, des animaux, et non-violence vis-à-vis de l'environnement. Et je crois qu'avec ça, on est bon.
Il y a des colorants pas marins, marrants, qui passent dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes.
Le chef du service informatique.
Là, c'est ma salle de commande, donc je peux voir en direct tous les salariés qui sont connectés, et puis je reste là à rien faire.
Allô, Cécile, t'as fait un malaise. Ah non, mais en fait, comme je voyais que t'étais inactive, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas un problème. Ah, tu te prenais juste un café. Eh ben, prends-en un cours la prochaine fois, parce que sinon le logiciel, il aime pas.
Du tube de Louis Chédid que vous entendez, elle est réalisée par une seule personne.
Ah oui,
oui.
C'est le multipiste, Eva.
Exactement.
Eva Rock découvre le multipiste.
Bon, attendez, vous n'aviez pas compris, vous pensez que c'était une chorale.
Bah, j'ai pas compris, mais je sais que c'est possible. Aujourd'hui, on peut faire des choses formidables avec les logiciels.
Europe 1, 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Comment
trop photographier le temps qui passe. Eh bien, le 12 mars dernier, Jean-Philippe Ballas nous évoquait deux séries de photos très émouvantes en présence du comédien Bertrand Huskla, le créateur de Brut, hein, la parodie de Brut. C'était donc avec Mathieu Noël et Eva Rock dans l'équipe est sauvage.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre savoir et sous l'œil vigilant de notre invité coup de cœur du jour, Bertrand Huskla, créateur de Brut et actuellement dans l'hilarante série d'Arte, Il revient quand Bertrand. Bertrand Huskla, comment vous résumez en trois mots?
Je peux vous dire que je suis un sacré cutard tendri.
Merci de cette concision qui me permet d'enchaîner rapidement sur la compétition, puisque voici venir notre deuxième concurrent du jour, le redouté Jean-Philippe Ballas, qui va tenter à présent une chronique émotion. Je vous souhaite bonne chance. Seul conseil que je peux vous donner suite aux déboires buccaux de ces derniers jours, pour éviter les lapsus malheureux, articulez.
Mais il n'y a pas que le CO2, il y a tous les polluants qui sont en nette baisse.
Écoutez, je ne force rien du tout. Jean-Philippe Ballas, c'est à vous, je ne dis plus rien du tout. Je ne dis plus rien, c'est fini.
Que dire après ça? Allez, j'ai des effets spéciaux, vous entendez?
Vous aussi, vous nous entraînez en forêt?
On est plus précisément dans l'Iowa, on est devant un petit pavillon de briques rouges avec un toit blanc, on est à Sioux City. Et c'est la maison des parents de Dina Dickman. Dina Dickman, c'est une jeune photographe qui ne rate jamais une occasion d'imprimer la pellicule. Et ce qu'elle aime surtout, c'est prendre sa famille sur le vif, dans des gestes quotidien, anodin, dans la cuisine, dans le salon. Et puis tenez, par exemple, ce petit moment particulier qu'on a tous vécu. Vous savez, quand il vous faut reprendre la route le soir, que vous repartez en voiture, ce moment où la famille, les amis sortent devant la maison, la porte du garage, et qui vous font un petit signe de la main. Et bien c'est ainsi qu'en 1991, alors qu'elle est déjà au volant, Dina Dickman a l'idée d'immortaliser cet instant. Elle photographie ses parents qui se penchent vers la portière de la voiture pour lui dire au revoir, il fait beau. Sa mère, on voit, elle a un petit bermuda, son père est en chemisette. Et c'est ainsi que, pendant plus de 30 ans, à chaque fois qu'elle va repartir de ses parents, Dina Dickman va les photographier. Alors parfois on voit un bout de tableau de bord, on voit le rétroviseur, mais les parents ils sont toujours là. Alors parfois c'est l'hiver, on voit qu'ils portent un bonnet, parfois c'est la nuit, parfois la porte du garage familial est ouverte et là on voit la vieille Buick bleue du père de Dina Dickman. Et puis on voit le temps qui passe surtout, parce qu'il y a un siège bébé au fil des années qui apparaît à l'arrière de la voiture. Et puis on voit les parents de Dina qui vieillissent forcément. Tenez, je vous ai apporté des photos, hein. On va les montrer sur europe1.fr, vous pouvez les échanger. Et on voit que la maman de Dina, elle commence à se courber légèrement. On voit que le papa, il a besoin d'une canne désormais. Mais il sourit toujours avec sa casquette de baseball.
Ah, j'ai pris à l'envers, moi, parce que si elle devient plus vieille que ça, c'est pas possible. Attendez, je reprends dans l'ordre.
Oh, Mathieu.
Vous êtes méchant. Parce qu'un jour, en 2010, il n'y a plus que la mère de Dina sur la photo. Là, on comprend que monsieur est parti. Alors, il est parti paisiblement dans son sommeil. La maman de Dina, elle continue à poser. Alors, elle sourit quand même un peu moins. Elle le rejoindra quelques années plus tard. La dernière photo de cette série, c'est le pavillon de briques rouges avec la porte blanche du garage définitivement fermée.
Vous êtes trop triste.
Il n'y a plus personne pour agiter la main et dire au revoir.
Alors, mais Jean-Philippe, cette photo, on a envie de pleurer.
Mais vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle a été publiée par le New Yorker, elle est mise en ligne. Elle est ultra partagée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle parle à tout le monde. Et je me suis aperçu que finalement, eh ben, on n'a plus d'album de famille chez nous. On n'a plus rien. On a uniquement, moi, j'ai ma plus jeune fille, elle a découvert pour la première fois de sa vie un album de famille en vrai, oui, chez ses grands-parents, il y a quelques jours. Et finalement, c'est un peu les réseaux sociaux qui sont devenus ce grand album. Alors, on pourrait se dire que mettre des photos de ses parents comme ça sur les réseaux sociaux, il y a un côté un peu impudique. Et ben finalement, on n'est pas du tout gêné. Il y a un côté miroir, on s'identifie complètement à ça. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a quatre sœurs comme ça qui ont passé des années à se photographier chaque année à chaque fois qu'elles se retrouvaient. On les a vues grandir. Et c'est des séries qui nous touchent forcément. C'est aussi grâce à Internet aujourd'hui.
Bertrand Huskla, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 33 ans.
Vous avez des albums photos à la maison encore? Vous faites partie de la dernière génération des albums photos?
J'en ai encore des petits, moi, que je retrouve de temps en temps à chaque fois que je dois déménager ou nettoyer chez moi, ce qui arrive en même temps, en général.
tous les 5 ans.
Voilà, quand je les retrouve, je me revois un peu, je me revois avec ma guitare, tous ces vieux trucs et tout. Et c'est, voilà, donc j'ai plus de photos que je tire, mais effectivement, moi, c'est Instagram qui est devenu mon.
Ben voilà.
Et oui. Même, je mets rien sur Instagram. Non, je prends pas de photos. Enfin, c'est sur mon cloud maintenant. Oui. C'est à mon insu.
Et si jamais un jour ça plante, ce truc-là?
Exactement.
On n'a plus rien.
J'aurais plus rien. Mais c'est comme un incendie, en fait. Seulement, il y a plus de chance que ma maison brûle, que Google brûle, je crois.
Ça, c'est pas faux.
Il n'y a rien sur votre Instagram. Il n'y a que des trucs de promo.
Ouais, il y a que des trucs de
promo. Parce que je vous ai scrollé, comme on dit. C'est-à-dire qu'on cherche. Scroller, ça veut dire on cherche toutes les infos possibles sur l'invité ou sur la personne que vous invitez un soir au resto. Vous voyez, vous vous renseignez avant.
Le fameux stalk.
Le stalk, oui, c'est ça. Vous l'avez stalké, c'est ça que vous voulez dire.
Il y a scroller aussi.
Ah bon?
Mais bien sûr.
Les deux fonctionnent.
Les deux fonctionne, merci. Expert numérique de repas.
Et je n'ai rien trouvé sur
mais
vous,
ouais, parce qu'en fait, j'ai très très peur, moi, de mettre des trucs perso. Alors, pour deux raisons, parce que déjà, je suis pudique. Et aussi, non, mais à ce côté, j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, quand on met trop de trucs de sa vie de soi, on casse un peu le pouvoir de projection que peuvent avoir là les gens. Je veux rester une page blanche, en fait. J'ai pas de tatouage, par exemple. Aussi parce que j'ai peur des aiguilles. Mais parce qu'il y a un truc où j'ai envie de garder une force comme ça de projection, quoi.
On remercie en tout cas Jean-Philippe Ballas. Bertrand, un mot à Jean-Philippe à l'issue de sa prestation.
Toujours se poser la question, pourquoi ? Pourquoi je suis chiant ? Pourquoi j'ennuie les gens ?
Oui, alors, bah, Bertrand, réservez-vous pour le vote final tout à l'heure. En attendant, on continue de parler de l'univers de Bertrand Huskla, notre invité jusqu'à 18h.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1 engagés dans une compétition chaque après-midi pour décrocher le titre de chroniqueur du jour, et notre compilation du week-end se poursuit bien sûr jusqu'à 18h sur Europe 1. Dans un instant, prenez des notes, on va vous donner la recette d'Olivier Pouls, une recette de tarte, et puis juste avant, on va découvrir le sujet d'Axel de Tarlé. Cette semaine, il a choisi de parler de l'actionnariat salarié, plaidé prôné par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui souhaite donc généraliser la participation des salariés aux entreprises.
Il a dansé sur Janet Jackson jusqu'au bout de la night dans sa jeunesse.
Oh bah, masqué, elle ne peut
oui.
pas.
Oui, bon, enfin, mais c'était loin en même temps, sa jeunesse. Axel de Tarlé, désormais l'expert écho d'Europe 1. Chacune de ses chroniques est d'ailleurs un moment sacré où, personnellement, je m'efface toujours devant la science économique d'Axel. Ma hantise serait vraiment que cette émission vire au café du commerce.
L'ONU, chaque année, établit le classement du développement humain.
Et donc... La liste, ah bon, ah oui, on veut savoir. On veut
et
savoir.
La France, effectivement, on n'est pas très bien classé.
Pop, pop, pop.
Eh non.
Pop, 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 pop. Pendant le café du commerce, pas ça chez moi. Axel, aujourd'hui je serai muet comme une carpe durant votre exposé sur cette idée portée par Gérald Darmanin, développer l'actionnariat salarié. J'ai réussi à le dire et je me suis beaucoup entraîné.
Exactement, parce qu'il y a une, au sortir de cette épidémie du Covid, il y a une demande très forte de revalorisation salariale qui a même été encouragée, on a l'impression, par le gouvernement. Chacun trouve normal et attend d'avoir son salaire revalorisé. Bon, le grand problème, c'est que vous imaginez, vous allez voir votre patron, dites donc, faudrait songer à m'augmenter. Le patron, il a déjà plus un rond. Et donc, ça risque de plomber nos entreprises. Et donc, comment se sortir de cette situation ? Eh bien, c'est l'idée promue par Gérald Darmanin le week-end dernier dans le journal du dimanche, promouvoir l'actionnariat salarié. Il le dit, il faut que les salariés deviennent des actionnaires. Donc vous frappez à la porte de votre patron et vous dites, bah, au lieu de t'augmenter, je vais te donner des actions.
C'est un modèle qui est répandu dans beaucoup de pays, ça ?
Alors, voilà une bonne colle.
En France, ça existe. Je te fais des relances comme ça.
Oui, des relances, ouais. Je me dis.
Des relances pièges.
La prochaine fois, je les écrirai,
non,
les relances.
Exemple, ça sera mieux. Ouais. Mais je me demande
non,
si aux États-Unis,
ça existe. En France, ça existe beaucoup. Vous avez par exemple la Société Générale, où les salariés de la Société Générale ont 9,5%. Et du coup, quel est l'avantage de tout ça ? Eh ben, c'est que les salariés, d'abord, ils ont une part des bénéfices. Donc, si vous voulez, quand on dit tout part aux dividendes, bah, c'est faux. Puisque comme les salariés ont 10%, des actions, ils ont 10% des dividendes. Donc les salariés sont associés à la bonne marche, sont intéressés à la bonne marche, à la bonne rentabilité de l'entreprise. Et puis deuxième chose, bah, comme ils sont propriétaires à hauteur de 10%, ils sont même associés à l'avenir, à la stratégie de l'entreprise. À un moment où on dit qu'il faut absolument mener une stratégie écologiste, verte, et bien, les salariés peuvent avoir leur mot à dire. Et pour revenir sur cet exemple de la Société Générale, pourquoi je voulais citer ? Parce qu'en 1999, je ne sais pas si vous vous souvenez, la BNP lance une OPA hostile sur la Société Générale. Et vous savez ce qui a sauvé la Société Générale ? Ce sont les salariés. Les salariés qui ont voté contre le rachat par la BNP. Ce vote contre a été décisif. Et c'est comme ça que la Société Générale est restée indépendante. Donc vous voyez, avec ce système, d'abord, on associe les salariés à la marge de l'entreprise. Et en plus, on offre une possibilité de rémunération sans plomber aucunement la rentabilité de l'entreprise.
Mais ça semble absolument parfait.
Oui, est-ce que je peux poser une colle,
une
deuxième colle.
Ça fait deux colles, c'est beaucoup quand même.
Est-ce que toutes les entreprises sont concernées ou c'est que les grands groupes ?
Ah, très bon. Ça, c'est une relance intelligente. Merci.
C'est
de la relance. Exact. Eh ben non, vous mettez le doigt sur les limites de cet actionnariat salarié. C'est que dans les petites boîtes, d'abord, on va pas, ça revient un peu à exproprier quand même. On va pas exproprier le petit patron qui va pas, quand le patron il a 100% de sa boîte, c'est compliqué pour lui de la découper. Et puis deuxième chose, bah, En fond, il y a des salariés qui vont travailler pour les entreprises très performantes. Si vous travaillez sur LVMH pour Google, c'est pas la même chose que si vous êtes salarié à la Halle aux Vêtements ou à Camaïeu ou Conforama. Mmh. Donc, vous voyez, et comment dire, et en plus, votre rémunération ne dépend même pas de votre travail, mais de la boîte dans laquelle vous travaillez, qui peut avoir des difficultés parce qu'elle est sur un secteur compliqué. Et en plus, je termine par là, si votre entreprise fait faillite, non seulement vous perdez votre salaire, mais en plus, vos actions
ne valent plus rien.
Donc vous perdez votre salaire et vos économies. C'était ce qu'il y avait avec Enron. Les salariés étaient très intéressés à la bonne marge de l'entreprise. Donc à un moment, ils avaient du salaire et des actions qui valaient je sais pas combien.
C'était un peu les rois du pétrole à l'époque.
Et à la fin, ils avaient tout perdu. Donc c'est pour ça que ça n'est pas la solution, mais une solution pour cette sortie de crise. C'est très en même temps. Et j'allais dire, ça plaît à droite et à gauche. Ça plaît à droite parce qu'on associe les salariés à la bonne marge financière de l'entreprise, et ça plaît à gauche parce qu'au fond, c'est cette grande idée marxiste qui est que le salarié s'approprie, que le peuple s'approprie l'outil de production.
Quand Marx tend la main à Adam Smith.
À Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Je voulais un symbole un peu plus glamour que Adam Smith, mais pourquoi pas. Merci Axel de Tarlé. En parlant d'actionnariat salarié, un dernier mot peut-être pour vous placer en vue de la saison prochaine.
Petit coup de chapeau à Monsieur Bolloré.
En toute discrétion.
J'ai eu le nez fin.
Je te dis que là.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Accueillons à présent l'homme au foie pas comme les autres. Un jour, Nicolas Carreau est tombé sur ses analyses et quand il a vu son taux de cholestérol, il s'est exclamé
« Oh mon Dieu !»
Pourtant, à l'issue d'un confinement en forme d'orgie calorique, Olivier Pouls n'a aucune intention de lever le pied sur la graisse de canard. D'ailleurs, si jamais un jour vous dînez avec lui au restaurant, évitez de commander des légumes vapeur.
Quoi ? Ça va pas être grossière en plus ? Si on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis.
C'est tout ça, Eddie c'est Mitchell vous, hein. dans Le Bonheur et dans le Pré.
Ouais. En fait, je crois qu'ils se sont inspirés de ma vie pour écrire le film.
Ça doit être ça, c'est un biopic déguisé.
Vous avez une Renault comme voiture ?
Non, c'est fini.
Pour ceux qui ont vu le film.
Olivier,
ils comprendront.
Vous avez une commande aujourd'hui.
Oui, une commande qui m'était passé hier par Ève Roger dans ce studio qui m'a dit, dis donc demain, est-ce que tu pourrais pas nous donner la recette d'une tarte sympa, facile, salée, évidemment, à réaliser à la maison, parce qu'elle en a un peu marre de faire toujours la même. Je crois que j'avais donné la recette de tarte il y a 6 mois et je crois que ça fait 6 mois qu'elle mange la même. Donc elle voudrait renouveler un tout petit peu. Et alors, j'ai un cadeau pour elle puisque j'ai la recette de cette tarte. Qui va peut-être parler un peu à Eva aussi, puisque alors écoutez bien,
une fougasse, une
quiche. Non, mais c'est.
Dites donc,
le père Picard. Enfin, mais
c'est Mathieu Noël.
On l'a identifié.
Vous pouvez vous le garder, hein. Alors,
il vous faut pour cette tarte une pâte feuilletée par exemple, que vous allez installer dans un moule et que vous allez cuire à blanc, donc c'est-à-dire
pré-cuire
confortablement, avec par-dessus une petite feuille de papier sulfurisé, des haricots secs pour éviter qu'elle ne gonfle au moment de la cuisson, et vous allez la pré-cuire pendant un quart d'heure. Et pendant ce temps, vous allez faire l'esprit d'une ratatouille. On commence à avoir les premiers légumes de printemps de qualité. Pas des saloperies qui viennent du sud de l'Espagne gorgées d'eau, non, des trucs qui ont vraiment du goût et qui sont français, s'il vous plaît. Alors courgettes, aubergines, oignons, poivrons. Les tomates, c'est encore pas ça, il faut bien le reconnaître.
Elles c'est pas encore la saison. Goût.
Non, on n'est pas vraiment... La vraie saison de la tomate va débuter à partir du 15 juin pour les tomates du sud, mais elles n'auront vraiment du goût qu'à partir du mois de juillet. Donc on peut éventuellement prendre quelques tomates les plus mûres possibles, cuisiner ça passe, ou, pourquoi pas, un bon coulis de tomate en boîte, il y a des choses de qualité. Et donc on va réaliser l'esprit d'une petite ratatouille. On va faire compoter tout ça tranquillement ensemble. On va y rajouter, alors ça c'est optionnel ma chère Eva, quelques dés de mozzarella, mais moi je trouve ça très bon. Et ensuite on va casser 3 œufs dedans. On va tout mélanger à nouveau et on va remplir notre pâte avec ce mélange qu'on va finir de cuire au four après l'avoir saupoudré d'un petit peu de parmesan. Là aussi c'est optionnel. Cuisson au four pendant 20
chaleur
minutes.
Chaleur
tournante évidemment. Et là vous avez une tarte avec une pâte feuilletée croustillante, l'esprit de cette délicieuse ratatouille et puis le tout est lié avec un œuf. J'ai omis de dire qu'on pouvait évidemment aussi rajouter plein d'herbes là-dedans au moment où on va les faire, du basilic par exemple, du thym. Amusez-vous avec ce que vous avez.
Et moi, alors, tout le temps.
Voilà.
En fait, ouais. Dès que je fais une ratatouille, je garde un peu de la ratatouille pour en faire une tarte salée. Mais je fais une pâte brisée, je fais pas une pâte feuilletée. Voilà. Vous êtes content ?
Ça, c'est une information. J'ai beaucoup de messages là qui me disent très pertinente des baroques
mais c'est quand même
qui
important.
Nous auraient manqué. C'est vraiment le complément idéal à cette chronique.
Miss Ratatouille, c'est moi.
Miss Ratatouille, c'est moi. Miss Ratatouille 86 et 87,
mais
c'est
pas
vous.
88.
Mais pas 88.
Alors, pardon, à nos auditeurs, là, c'est vraiment
la private joke.
Non. On peut
faut renvoyer les auditeurs. C'est un sketch de François Damiens dans les caméras cachées de François Damiens. Oui, c'est le sketch du. On peut le conseiller à nos auditeurs, ça peut être marrant.
Du sommelier.
D'aller voir le sketch du sommelier où il joue François Damiens, joue un sommelier absolument infect, où il explique qu'il était champion du monde des sommeliers 2003, 2004, pas 2005, mais 2006, 2007. Enfin bref, je vous le conseille, c'est beaucoup plus drôle quand c'est François Damiens ce qu'il fait. Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour votre recette.
C'est toujours compliqué de raconter un sketch.
C'est très très dur. J'ai senti que je m'enfonçais. Mais en même temps, j'avais envie de partager ça avec nos auditeurs pour qu'ils puissent cliquer sur YouTube et aller le voir. Merci Olivier. À demain.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et l'écrivain Joël Dicker, auteur de best-seller et puis Grand Prix de l'Académie française en 2012, entre autres. Son dernier roman, L'énigme de la chambre 622, paraît aux éditions de Fallois. Alors à tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, la seule émission française au rythme rapide présentée par un Suisse. À mes côtés, pour créer un cocktail explosif, un choc des mondes entre ma rigueur calviniste et sa faconde méridionale, une niçoise, Eva Rock.
Oh là là, c'est pas possible.
Bonjour Eva.
Bonjour, mais je suis très, très ponctuelle par exemple.
Ah, vous voyez ponctuelle. Ah, oui, tout c'est votre côté suisse.
C'est mon côté suisse.
C'est bien le seul, Eva, c'est bien le seul.
C'est les yeux
rougis que je vous ai retrouvés cet après-midi, non pas pour une fois à cause de l'alcool, mais suite à la lecture toute la nuit dernière du nouveau roman de notre invité. Mon compatriote est certainement le plus célèbre écrivain suisse. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous cet après-midi. Vous êtes extrêmement sollicité puisque ça y est, votre nouveau roman, L'énigme de la chambre 622, est sorti hier. Depuis la vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous abordez chaque sortie détendue, tranquillou, ou au contraire, vos chiffres de vente passés vous mettent à chaque fois encore plus la pression pour le nouveau?
Non, plutôt heureux parce que pendant très longtemps, j'ai écrit des livres que les gens ne lisaient pas. Et je dois dire que le sentiment d'avoir un livre qui est attendu, c'est pas une question de vente. Il y a pas une obsession de chiffres. C'est pas tellement ça. C'est vraiment le plaisir pour moi d'avoir des gens qui attendent et les messages des gens qui me disent je me réjouis énormément, j'ai envie de lire. Je dois dire que ça fait très plaisir.
On va parler de tout ça ensemble. Joël, juste pour vous dire à quel point c'est quand même un phénomène, Joël Dicker. J'ai votre livre, j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première. Il traînait sur la table de la maison.
Ah, vous l'avez
fait piquer. Ma compagne l'a vu. J'ai entendu un cri. Elle dit mais qu'est-ce que c'est? Mais je le connais pas celui-là, c'est un nouveau. Elle était comme une folle. Oui, calme-toi. Je l'ai reçu en avant-première. Calme-toi.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Joël Dicker dont le nouveau roman « L'énigme de la chambre 622 » vient de sortir qui nous accompagne cet après-midi. On va parler de ce nouveau roman, mais pour ceux qui, comme moi, ont lu tous les précédents, une phrase de vous en interview m'a totalement stupéfait sur la construction de vos romans, qui sont des enquêtes millimétrées avec des dizaines de rebondissements où tout s'imbrique parfaitement jusqu'au final. Vous dites « Jusqu'aux trois quarts du roman, je ne sais pas toujours où je vais. Parfois, je me dis « Est-ce que je n'ai pas passé 2 ans et demi à divaguer pour rien ?» Mais je démarre par cette question parce que ça paraît complètement fou quand on connaît vos romans. On a l'impression que tout est pensé du début, au contraire. En fait, non,
pas du tout. J'écris sans plan et pour moi, c'est un élément très important d'écrire sans plan parce que ça me met toujours dans la découverte, dans le plaisir. Tant que tous les matins, quand je me lève, je me dis « Ah mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» et que je suis excité et que j'ai vraiment envie par cette excitation très juvénile de continuer ce livre, je me dis que voilà, que ça au moins, ça me garantit que ce livre sera un succès pour moi, c'est-à-dire pas un succès commercial ou critique ou autre, mais ce sera un succès par rapport au plaisir que ce livre m'aura donné pendant, c'est quand même 2-3 ans pendant lesquels j'écris 10-12 heures par jour. Et donc, la seule valeur que je peux donner à ça, c'est le plaisir que j'ai tous les jours, sans savoir ce qui se passera ensuite avec ce livre, parce que c'est vrai que j'ai par exemple des moments où je me dis mais en fait ça va pas au bout d'un an ou un an et demi
Joël Dicker, c'est infini. Si vous ne savez pas la fin de votre roman, vous pourriez écrire pendant 5 ou 6 ans
mais surtout vous n'êtes jamais bloqué.
Ouais, genre, à quel moment vous dites que c'est la fin?
Comment vous retombez sur vos pattes?
Alors c'est deux choses. Alors en ce qui concerne la fin, c'est qu'à un moment donné, donc il y a un moment
vous en avez marre, début,
c'est vraiment le plaisir. Non, c'est ça. Au début je me dis c'est chouette, une histoire, c'est cool, etc. Après, tout d'un coup, au milieu, après un an et demi environ, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je vais? Ça fait un an et demi que je travaille dessus, j'y arriverai jamais. J'essaie de me dire c'est pas grave, tu vas en faire un autre, etc. Et puis tout d'un coup, je vois une porte, on me dit mais non, c'est ça. Donc je fonce en me disant là, c'est le moment. Et là, j'ai quelques mois très sympas parce que je comprends ce qui se passe, je sais ce que je veux faire et puis ça avance. Et puis tout d'un coup, j'arrive vers la fin du livre, donc là, je suis aux trois quarts. Et là, je me dis ah, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je sens que j'arrive à la fin, je sens que j'ai un peu tout tout dit, je sens qu'il faudrait que je m'arrête. Une partie de moi sait que quand je m'arrêterai, ça veut dire que je vais quitter ce monde un peu excitant de l'inconnu, de pas savoir ce qui se passe, cette découverte de mon propre livre. Et puis en même temps, une partie de moi est soulagée de se dire, bon ben, j'ai réussi quand même, je suis arrivé au bout de tout ça. Donc tous ces sentiments ensemble font me dire qu'il est peut-être temps que je m'arrête. Et puis il y a aussi ce sentiment où, parce que évidemment, il y a une enquête, des allers-retours, donc moi aussi dans le livre, je dois m'assurer sans cesse que plus j'avance, plus ce que j'ai fait avant correspond et fonctionne bien avec le livre. Et à un moment donné, on a aussi le sentiment, à force de trop vouloir reprendre et faire bien, qu'on casse tout. À force de trop limer, vous voyez, au lieu de polir et que ce soit beau, on commence à enlever trop. Et là, c'est le moment où je me dis, bon ben stop, quoi. C'est comme ça, il faut que je le laisse ici.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Sur Europe 1,
l'équipé sauvage.
Guillaume Musso ou encore Joël Dicker, que l'on a entendu il y a quelques instants dans l'équipé sauvage, font partie du cercle très fermé des auteurs dont les livres se sont vendus à des millions d'exemplaires et chacun de leurs romans est frénétiquement attendu. Alors on va parler maintenant des best-sellers, c'est la pleine saison en ce moment. Mais qu'est-ce qu'un best-seller au fait? Réponse avec Mathieu Noël, Eva Rock et notre monsieur livre Nicolas Carreau. C'était ce lundi sur Europe 1.
Piketty nous avait prévenu dans son livre de référence Le Capital au XXIe siècle, ce qui menace le fondement de nos sociétés modernes, c'est la montée des inégalités. Des inégalités parfois criantes, surtout au sein de la rédaction d'Europe 1, où certains journalistes comme Nicolas Carreau vivotent modestement, pendant que d'autres, notamment des chefs de service comme Ève Roger, pataugent dans un luxe insolent. Le contraste est tel que longtemps, quand je parlais de la terrasse plein ciel d'Ève Roger, de son jacuzzi multijet, Nicolas pensait que je plaisantais, jusqu'à ce qu'il découvre récemment la cruelle réalité. Est-ce que le jacuzzi a été livré?
Alors, à votre avis, eh ben oui, il est là dans l'entrée.
Mais je croyais que c'était une blague, moi.
Et là, c'est un moment terrible de radio où Nicolas Carreau, qui pensait que c'était une blague, cette histoire de jacuzzi, découvre que vous êtes vraiment blindé.
Non, ça je savais, mais quand même.
Mais à ce point, oui, Nico.
Au point d'avoir un jacuzzi.
Il y a des gros écarts salariaux dans la rédaction d'Europe 1. Mais souvenez-vous de ce que disait la Bible, les premiers sont les derniers. Enfin, peut-être. Bref, aujourd'hui, vous nous parlez de best-seller. On est en pleine saison. Mais depuis le temps, est-ce qu'on a la recette? C'est quoi un best-seller?
Alors, la question n'est pas si évidente. Une fois qu'on a dit que c'était des livres qui se vendent à de très très nombreux exemplaires, c'est pas suffisant. À partir de combien y a-t-il un chiffre? J'y viens. Mais effectivement, là, c'est la pleine saison des best-sellers, là maintenant, elle aurait dû commencer en avril. Il y a eu un petit imprévu, comme chacun sait.
Petit.
Tout le monde sort ses poids lourds maintenant. Il y a d'ailleurs un petit embouteillage. Enfin, depuis la semaine dernière et dans les semaines qui viennent, on a eu le dernier Bernard Minier, La Vallée chez Ixo. Après-demain, mercredi, c'est le retour de Joël Dicker avec l'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois. En passant, je peux vous le dire, il sera dans La Voix et Livre dimanche à 14h sur Europe 1. Il y a aussi Patricia.
Mais il sera chez nous aussi. Il sera chez nous avant.
Qui débarque avec une nouvelle série au mois de juin, le roman s'appelle Quantum chez Lattès. Musso, Guillaume Musso, bien entendu, La vie est un roman, son dernier livre sort demain. Et justement, c'est intéressant, le livre sort demain donc, mais sur Amazon, il est déjà premier des ventes, et pas depuis aujourd'hui, depuis qu'il est disponible en précommande.
C'est dingue.
C'est hallucinant.
Alors c'est ça, c'est là un livre vendu avant même d'être sorti, c'est ça la définition.
C'est ça
en fait.
Pour moi. Alors attention, il y a différents types, donc j'y vais pour la définition. Mais j'aurais pas tous les éléments. Il y a une part de mystère là-dedans. Il y a des accidents. Un auteur qui vend beaucoup un de ses livres, mais qui vend mal les autres. Ça arrive. C'est souvent le cas avec les prix Goncourt. Le roman récompensé se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, parce qu'il a le bandeau. Mais ceux d'avant et ceux d'après, bof. Il y a aussi les long-sellers. Ça, c'est des romans qui ne cartonnent pas d'entrée, mais qui, au fil du temps, s'imposent. C'est le cas des fourmis, par exemple.
Le roman de Bernard Weber. C'était pas un best-seller instantané.
Un million d'exemplaires, mais au tout début, dans les années 90, quelques dizaines de milliers. Ce qui est beaucoup, hein. Mais ce qui est intéressant avec Les Fourmis, c'est que c'est un livre qui n'a marché quasiment que grâce au bouche à oreille et donc qui a mis du temps à se vendre. Et du coup, ensuite, la plupart, pas tous, des livres de Verber sont des best-sellers.
Et alors, c'est combien le chiffre? Pour savoir à partir
difficile.
De quand on a un best-seller.
La notion de best-seller aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 20 ans.
C'est comme
aujourd'hui,
pour la musique. Hein,
on peut commencer à parler d'un best-seller à partir de 20 000 exemplaires.
Mais non.
Aujourd'hui, 20 000, c'est gigantesque.
20 000 exemplaires?
Ouais. Il y a 20 ans, c'était super, mais je suis pas sûr qu'on parlait de best-seller.
Non,
C'était plutôt à partir de 60 70 000. Mais donc, ça donne une fourchette assez large. Bernard Minier, par exemple, il a vendu plus de 3 millions de livres.
Ça,
Lévy et Musso, ils sont autour de 50 millions en tout. Hein. Mm. Et encore, 50 millions, c'est chouette. Mais John Grisham, par exemple, l'affirme, l'affaire Pélican, c'est plus de 300 millions d'exemplaires. On peut même pas se représenter l'entrepôt qui les abrite. Stephen King, 400 millions d'exemplaires.
Et alors, vous connaissez mon côté vénal. Combien ça rapporte un livre vendu?
C'est un peu compliqué aussi parce que ça dépend des contrats. Mais enfin, allez, disons, en moyenne, presque 2 euros par livre. Et je compte pas les adaptations au cinéma ou en série qui rapportent
encore
donc
il faut quand même en vendre beaucoup, hein.
C'est une bonne analyse.
Mais non, mais on s'en rend pas compte.
Si vous en vendez peu, par exemple, ben, ça ne marche
mais
pas.
Si non, mais si vous en vendez 300 millions, tching.
C'est le jackpot. Et dites-moi, pendant que je me remets du gel hydroalcoolique sur les mains, parce que je suis quelqu'un de respectueux des consignes de sécurité, vous l'avez vendu à combien votre excellent livre que vous avez offert sur le masque de fer?
1 million d'exemplaires.
1 million, 1 600 000, même m'a-t-on dit. Bravo, Nicolas Caro.
C'est pas un jacuzzi, hein.
Qu'est-ce qui fait?
C'est autre chose hein, qui va pouvoir s'offrir.
Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas, je cherche un truc plus grand qu'un jacuzzi.
Vous avez du mal? Une piscine, en fait. Je vous donne des idées très simples. Hein, très simples. Et ben, on va rester très carré avec vous. C'est-à-dire que plus grand qu'un jacuzzi, ça peut être une piscine. C'est l'idée qui doit vous venir spontanément. On va travailler la spontanéité et la réactivité. Qu'est-ce qui fait qu'un livre... Qu'est-ce qui fait qu'un livre est un best-seller, Nicolas? Vous avez la
impossible
la clé.
À dire. Qu'est-ce qui fait qu'un tube est un tube? Je dis pas qu'il y a pas de recette. Il y en a un peu. Certains genres marchent mieux que d'autres. Certains types d'intrigues aussi, polar et histoire d'amour. Mais bon, c'est pas du tout suffisant. La qualité non plus n'est pas suffisante. Ça n'a même rien à voir. Un best-seller n'est pas forcément un bon livre. Pas forcément un mauvais non plus d'ailleurs. La quantité n'a absolument aucun lien avec la qualité, sinon on donne 3 étoiles Michelin au McDonald's. Oula. La notoriété non plus d'ailleurs, on connaît Musso, Lévy ou Migné, mais Françoise Bourdin par exemple.
Oui, c'est vrai ça.
Bizarrement, elle n'est pas hyper médiatique alors qu'elle vend à chaque fois des centaines de milliers de livres. Parfois, il y a des best-sellers inattendus aussi. Je vous ai déjà parlé de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Personne ne voulait de son roman, il s'est suicidé à cause de ça. Le livre a finalement été édité et il a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il n'y a pas de règle, heureusement.
Merci Nicolas Caron. On rappelle votre émission La Voix est libre chaque
dimanche.
Chaque dimanche sur Europe 1 à quelle heure?
14h.
À 14h, je le savais, c'était juste pour vérifier si vous le saviez aussi.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et alors qu'Alain Souchon soufflait ses 75 bougies, notre monsieur innovation, lui, misait sur l'érotisme pour sa chronique avec Anissa Mbida. En effet, on va s'intéresser maintenant à un chatbot, désolé pour l'anglicisme, un chatbot conçu par des sexologues et des auteurs de romans pour qu'on puisse s'inspirer et se tester dans l'écriture de messages coquins.
Est-ce lui, de par son magnétisme naturel, qui installe dans ce studio une ambiance malsaine de club échangiste? Ou bien est-ce simplement Eva, qui lorsqu'elle lui parle, ne peut s'empêcher d'avoir des idées qui lui viennent? Toujours est-il qu'en présence d'Anissé, il faut faire attention à chaque phrase qu'on prononce.
Est-ce que t'as ta petite bonnette, Anissé?
Ça me fait bizarre comme phrase, je suis désolée. Ça fait un peu préservatif, ouais.
Anissé Mbida, vous avez votre
c'est moche
petite
que vous venez de
bonnette.
Faire. C'est moche parce
qu'est-ce
que là, vraiment, pour le coup, vous avez fait un gros montage. Et,
c'est bizarre
et...
parce que c'est vraiment nouveau que je fasse
ouais,
des montages.
C'est dégueulasse.
Oui, Anissé, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais j'ai vu ce qu'on va s'enfoncer. Va.
C'est encore pire.
Tu peux rien faire.
C'est-à-dire, c'est pire. Non, il vaut mieux se taire derrière. Anissé, vous êtes notre expert innovation. Et aujourd'hui, derrière une splendide bonnette, vous allez nous parler d'une innovation qui va aider les timides.
Oui, c'est un robot conversationnel avec lequel on échange des petits SMS cochons. Vous savez, comme à l'époque. Parce que Mathieu Noël a beau me faire passer pour un homme à femme, moi je suis assez vieux jeu, hein. Je suis assez nostalgique de cette époque, vous savez, où toute la nuit on s'envoyait des SMS, où on n'avait que 128 caractères, donc il fallait choisir ses mots, on jouait la séduction, on se titillait par message interposé. Hein, aujourd'hui c'est quand même plus aussi subtil, hein, quand au bout de 2 messages hein, sur Tinder, on vous demande tout de suite, tiens, est-ce que tu peux envoyer une photo à poil ou on te propose de coucher. Donc non, on a créé des robots justement pour retrouver cet art hein, de l'excitation épistolaire numérique.
Alors comment ça marche exactement?
Alors c'est une intelligence artificielle, vous l'avez dit, qui a été développée par des sexologues et des écrivains de romans érotiques. Et elle va commencer par vous demander si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si on cherche plutôt un petit flirt gentillet ou quelque chose de beaucoup plus torride. Et elle va commencer comme beaucoup de conversations, hein, dire bah, par exemple... Salut, c'est Sophie, la prof de yoga. Merci d'avoir répondu à mon message.
Ah bon ? Ah, bon, faut pas beaucoup, hein.
J'ai pas mal pensé à toi depuis le dernier cours. Tu sais, parfois mon imagination s'emballe. Tu veux savoir à quoi j'ai rêvé, de quoi j'ai rêvé hier soir ? Et ça commence comme ça, et donc on répond. Et de fil en aiguille, la conversation prend, et à un moment, elle va vous demander « Et si je te proposais un cours privé, tu voudrais que je te fasse quoi ?» Et donc, on doit répondre, comme ça, on doit essayer de séduire, de répondre à la séduction. « Décris-moi ta scène de film porno préférée. » Et hop, on commence à décrire. Et ça peut aller évidemment très très loin. Ben, j'ai eu ce message, moi, hier, j'ai testé un butt plug, est-ce que tu veux que je te raconte ? Et donc, c'est hyper torride, ça peut aller très très loin dans... Mais justement,
non, mais pardon,
on échange.
Il y a un truc que j'ai pas compris. Donc, non, mais vous parlez avec l'intelligence intelligence artificielle.
Oui, c'est comme des SMS qu'on envoie et puis l'intelligence artificielle vous répond. On parle, on répond. Elle raconte toute seule son expérience sexuelle et soit vous intervenez, soit vous fait parler et vous répondez.
Et ça marche bien, franchement.
Alors, c'est pas tout à fait parfait, un peu comme toutes ces intelligences artificielles. Hein, vous savez, de temps en temps, ils répondent à côté, ou ils disent des trucs vagues, complètement insipides. C'est torride ce que tu es en train de dire, petit coquin, hein, des choses comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'intention qui est derrière. Parce qu'on apprend plein de trucs, finalement, avec ce logiciel. Bon, on apprend des astuces pour mieux connaître son interlocuteur, par exemple. On apprend à interroger la personne pour savoir si elle est dans le mood, si elle a vraiment envie qu'on aille plus loin dans la conversation, hein, donc pas à s'emballer tout seul. Souvent, il y a des gens qui s'emballent tout seuls hein, sur Tinder. Au bout de 3 secondes, il y a certains qui envoient la photo de leur sexe. Et beaucoup de femmes se plaignent de ça, notamment des hommes, malheureusement, hein, qui s'emballent.
Mais vous pensez qu'une intelligence artificielle va rendre les gens moins cons là-dessus ?
C'est pas qu'elle va rendre moins cons, mais c'est que
on s'entraîne.
On est inspiré par sa façon de parler et on se dit ah bah ouais, ça marche pas mal. Ah bah oui, il me tire les vers du nez. Ah bah oui, c'est subtil. Ah bah oui, c'est quand même super excitant ce qu'elle vient de dire. Et on finit par reproduire les mêmes choses dans une conversation et on apprend des choses.
Une question importante de ce c'est si vous vous faites choper par votre femme.
Alors, c'est ça qui est terrible.
Parce que là, vous êtes dans un truc qui est virtuel, qui est faux.
Mais parce que justement, on a un faux numéro avec des tas de SMS en dessous, hyper torride.
Ah oui, donc vous voulez dire, alors ça c'est pour une chronique sur Europe 1, en fait chérie, je suis en train de...
Non mais on montre que, bah évidemment, c'est une conversation, parce qu'on peut continuer la conversation un peu plus tard. Et ce qui est bien, c'est que quand on recommence la conversation, eh bien comme justement ce qu'on fait comme erreur souvent nous autres, c'est qu'on se dit, bah tiens, ça a été torride la dernière fois, je recommence tout de suite torride. Et bien là, ça montre qu'il faut prendre son temps, qu'il ne faut pas tout de suite s'emballer.
Axel ?
Je préférais la chronique de lundi sur la trottinette électronique.
Mais qu'il est chaste, qu'il est prude, celui-là.
Il sait tout, il connaît tout ça.
Bon, je sais que je vais perdre avec cette chronique.
Il n'y a pas besoin de conseils. Alors, on cite le nom de ces applis.
Il y en a plusieurs. Hein. Slotbot, Botter, Personality Forge. Il y a des noms un peu équivoques. Hein.
Eva, de nouveaux horizons s'ouvrent à vous.
Plus tard.
Toute rouge comme une tomate du sud.
Non, en fait, j'aimerais bien être l'intelligence artificielle, c'est-à-dire non mais
ça c'était Minitel, à l'époque.
Répondre.
Merci Anissé, Lida. Axel, un commentaire totalement hors de propos et gratuit à l'issue de cette chronique.
On sent qu'il pratique la MILF, Anissé.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Roch et à présent Jérôme Lacroix dont on va découvrir le sujet. C'était le jeudi 12 mars sur Europe 1 et en présence du comédien Bertrand Huskla.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui est à l'infotainment ce qu'un pogo est un concert d'ACDC. C'est-à-dire à la base, 2 heures d'une baston éditoriale entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 que vous départagez via Twitter sous l'égide d'un arbitre d'honneur. Aujourd'hui, c'est le comédien Bertrand Huskla qui nous offre généreusement son arbitrage.
Avec une petite commission de 15% parce que le aussi, il faut bien qu'on mange. Hein.
Bien sûr, tout ça a été dilé en amont. Alors Bertrand Huskla, vous êtes, on le rappelle, le créateur de Brut, cette alternative cocasse à Brut, en exclusivité pour Europe 1 cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème du prochain Brut ?
Ça change tout le temps.
Comment ça change tout le temps?
A priori, on devrait parler de confinement si j'arrive à le tourner, celui-là. Mais normalement, c'est un peu le sujet obligatoire, quoi.
Alors, il y a des sujets comme ça qui sont un peu imposés par l'actu, notamment le coronavirus, j'imagine.
Je peux pas passer à côté. J'en avais fait un il y a deux, trois semaines, donc je voulais pas revenir trop vite dessus. Mais alors là, je pense qu'il. Voilà, on a un peu des trucs à dire maintenant. Mais c'est drôle parce que j'en ai un que j'ai tourné. Ils vont peut-être me flinguer à Canal si je dis ça, j'en sais rien. Mais en fait, il y a eu un truc, j'en avais fait un sur l'Italie. Et il y a eu une petite crise entre Groland et l'Italie.
Ah oui,
Groland a sorti un sketch.
Moi,
je le trouvais très drôle. Mais ouais, c'est des sensibilités. Ça se discute pas. Et ça a été, c'est vraiment monté en échalote. Et on est
canal. Monté en échalote.
Ça n'existe pas.
C'est bien de rencontrer un jeune qui a des expressions encore plus ringardes que moi.
C'est pas piquer les hannetins, tout ça. Bon. Et donc, du coup, il y a dû avoir un peu des excuses de Canal vis-à-vis de ce sketch. Et moi, j'en avais fait un sur l'Italie qui était pas méchant. Mais Canal a joué la carte politique de on va pas vexer quand même le pays, le copain à côté qui le prend vraiment très très mal. Donc, du coup, je vais sans doute l'adapter. Le retourner, donc c'était un couple de Français qui était bloqué à Codogno en Italie, et peut-être que je vais les faire à Wuhan ou peut-être à Paris.
Hein, finalement, vous allez recycler.
Voilà, on va voir ce qui se passe demain. Il faut que je change quand même pas mal de trucs hein, pour taper la charpente et tout parce que ça tient plus. Hein.
Face à vous, Bertrand Huskla, un homme attend son heure. Expert sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix est comme Icardi au PSG. On peut ne pas le voir pendant une heure et soudain, paf, il surgit. Méthode de l'attaque surprise qu'il pratique visiblement aussi dans son intimité avec Madame Lacroix qui doit se plier à un cérémonial très particulier lorsque Jérôme est en forme.
Je me cache, si tu me trouves, tu me fais ça. Et si tu me trouves pas, je suis dans le placard, tout ça, tout ça.
Oui, certains huis clos sont plus embarrassants que d'autres. Par
Parlez-nous plutôt, Jérôme, du huis clos dans le sport.
Très bonne méthode pour perdre du poids. C'était l'objet de la chronique.
Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si fort.
Tout d'abord, écoutez cette ambiance. Ah oui, c'est ça pour leur match de foot en France. Alors, c'était pas hier, ça c'était lundi soir à Lens, un match de Ligue 2 à huis clos. Des ballons qui claquent, des exclamations qui résonnent. Là, on vient d'entendre au moment où un but est inscrit.
Ah oui.
Voilà, on entend vraiment tout qui résonne contre le béton froid des tribunes vides. C'est le huis clos. Pas de spectateurs dans les tribunes. Vous le savez, c'est lié bien sûr au coronavirus. Et en France, c'est jusqu'au 15 avril. Pour tous les événements sportifs. Alors, huis clos, ce terme qu'on entend beaucoup depuis près d'une semaine. Top séquence, culture G, ce sera court. L'origine du terme, lui, c'est assez connu, hein, vient de l'ancien français qui veut dire porte, expression apparue au XVIe siècle. Au passage, le mot huissier,
voilà,
ça vient de là.
D'accord.
C'était la personne chargée d'ouvrir et de fermer la porte du cabinet du roi. Alors, retour en 2020, avec ce chiffre donc, qui donne le vertige concernant le sport. D'ici mi-avril, 450 manifestations sportives seront perturbées en France par la mesure contre le coronavirus. Ça représente 2 millions de spectateurs qui sont concernés. Et voilà que les clubs sportifs tremblent parce que perte estimée pour les clubs de foot professionnels français. On parlera aussi des autres sports, mais pour le foot français pro, c'est entre 50 et 100 millions d'euros de pertes selon les estimations. Rien qu'hier, pour PSG Dortmund, au Parc des Princes, 48 000 places vides, c'est environ 6 millions d'euros de pertes. Alors bien sûr, c'est une goutte d'eau pour le PSG, puisque le budget annuel, c'est 650 millions.
Une goutte de pétrole.
Mais, voilà, mais pour les autres clubs, alors pour le foot professionnel en France, la billetterie, c'est en moyenne 16% des revenus. Heureusement, les droits télé sont conservés, c'est 37%, ils sont conservés ces droits télé, puisque les événements, ils se tiennent et qui passent à la télé.
Et puis ceux qui ne peuvent plus rentrer au stade, ils vont être obligés de prendre l'abonnement. Et donc, comme ça, les droits télé vont augmenter encore.
Ah oui, oui.
Oui, moi, je raisonne comme ça, vous savez, l'école de commerce aussi. Ouais. Pour le foot, perte limitée donc, mais c'est loin d'être le cas dans d'autres disciplines.
Au basket, un tiers des recettes des clubs, c'est la billetterie. Un exemple, Dijon, actuel 3e de première division, donc c'est pas rien, parle d'un préjudice pour le club bourguignon de 50 000 euros. Au rugby, la billetterie, c'est 13% des revenus, mais si jamais ces huis clos devaient durer, les clubs de première division pourraient perdre de 100 000 à 800 000 euros sur un seul match selon les clubs du top 14. Alors le rugby français, il se réunit lundi pour choisir. Huis clos, report, annulation, pour l'instant, ils n'ont pas encore tranché. Ou alors, il y a aussi la possibilité, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé dimanche dernier, de limiter l'assistance à 1000 personnes. Mais dans ces cas-là, imaginez comment on fait pour choisir, pour sélectionner les spectateurs.
C'est aux enchères, les billets.
Ouais. Ah oui,
que les plus riches. Pourquoi pas? Ah oui, mais je me pose une question, Jérôme. Je vous la pose directement. Les clubs ne sont pas assurés contre d'éventuelles annulations.
La problématique des annulations, c'est très intéressant, elle est complexe. C'est un papier du Monde qui soulignait ça cette semaine. Les organisateurs, ils partent du principe, alors ça je l'ai vraiment découvert, que leur événement ne sera jamais annulé. Alors non, ils souscrivent pas d'assurance annulation. Et sachez qu'il existe tout de même une clause maladie contagieuse, mais les clubs sont très rares à l'avoir racheté, cette clause, pour que ici le manque à gagner lié à la perte billetterie dans le cas du coronavirus soit compensé. Alors pas de dédommagement des assurances, des régions, des collectivités territoriales, c'est possible, mais rien ne les y oblige, d'autant que là l'état de catastrophe naturelle ne peut être décrété. Alors il y avait un sélectionneur de la Colombie, de l'équipe de foot de Colombie dans les années 90, qui disait: on n'a jamais vu une tribune marquer un but. Cette formule, elle est souvent reprise dans ces cas-là. La seule vertu du huis clos, c'est des joueurs qui peut-être se tiennent un peu plus sages, en parole notamment, parce qu'on entend tout ce qui se dit. Alors ils le reconnaissent, les joueurs qu'on a interrogés sur Europe 1 qui ont déjà joué à huis clos, il y a moins de propos déplacés, parce que quand le public pousse...
Materazzi aurait fermé sa gueule, on aurait gagné la Coupe du Monde.
C'est possible, oui, exactement. Ça aurait résonné, Zidane, peut-être sur Materazzi, on l'aurait bien entendu. C'est vrai que quand le public pousse, il siffle, par exemple, lors d'une faute, les joueurs ils s'en servent pour influencer l'arbitre. Alors, en revanche, c'est potentiellement propice à de grands moments de solitude, les huis clos, comme lundi soir à Lens, le speaker du stade...
C'est génial.
Il a l'habitude au moment du début, comme partout, de faire hurler à la foule le nom du buteur. Lui, il dit le prénom et il attend que la foule répète le nom. Écoutez, voilà, c'était sur Canal+.
Écoutez, speaker. Pour le Racing Club de Lens.
Oui.
Numéro 7.
Oui. Il rigole en son
sabot. Mais il s'est fait plaisir.
Moi, ça donne matière à sketch encore, c'est horrible, parce que
le jour des sketchs sur le micro,
qui est devant moi, et à chaque fois qu'on parle d'un sujet, je me dis ça va faire un sketch chez Brut.
Vous allez vous voir vous-même, je vais vous interpréter en personnage.
Ça, j'ai hâte. J'aimerais bien que vous ne pourriez pas la prendre une fois pour faire une vidéo,
Mathieu.
Eva, juste ça.
Ça pas
parce que vous êtes une très bonne actrice. Hein. Elle a interprété ici même des rôles.
Ouais, c'est ça.
Je vous ferai écouter ces bouts d'essai. C'était très, très, très intéressant. En tout cas, merci Jérôme pour cette excellente chronique. Vous vaudra-t-elle les 3 points? Ça, seul l'avenir nous le dira.
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
De la bonne humeur, des découvertes, c'est tous les après-midi sur Europe 1 avec Mathieu Noël et Eva Rock. Vous avez été nombreux à profiter du confinement pour vous lancer dans l'écriture d'un roman, pas loin d'un Français sur 10, selon une enquête Harris Interactive. Alors, ceux qui en sont venus à bout ont peut-être la bonne idée de choisir pour thème « L'avenir appartient à la jeunesse » afin de participer au prix 20 minutes du roman qui s'est achevé le 15 mai dernier.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Et chaque après-midi, à défaut de pouvoir encore les accueillir en chair et en os, nous prenons des nouvelles de nos anciens invités. Parmi eux, un auteur extrêmement talentueux et sympathique, bien qu'il ait beaucoup de mal à ne pas penser boulot, comme il nous l'avait prouvé durant la chronique gastronomique.
Alors ce petit marron que je vous ai donné là, vous allez le couper en morceaux, l'évider, enlever les pépins, récupérer la chair.
Comme une bonne autopsie.
Maxime Chatham est avec nous cet après-midi. Maxime,
l'horreur est au bout de la phrase.
Vous êtes, on le disait tout à l'heure, le président d'un concours d'écriture, le prix 20 minutes du roman dont le gagnant verra son manuscrit publié. Le thème, c'est donc « L'avenir appartient à la jeunesse ». C'est vous qui l'avez choisi ?
Non, c'est une proposition de 20 minutes que j'ai trouvée pertinente, amusante. C'était avant ce qu'on vient de vivre.
Cette
épidémie. Mais du coup, je trouvais ça amusant. Donc, non, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'en plus, ça parle à tout le monde. On peut y mettre beaucoup de choses. Et puis, c'est ça qui est intéressant dans un prix quand il y a un thème. C'est de parvenir à le contourner d'une manière ou d'une autre, tout en le respectant. Pour que ça colle à son inspiration, à ce qu'on a envie de raconter.
Parmi les conseils que vous donnez, vous dites, pendant l'écriture, soyez totalement égoïste. Savourez le plaisir de l'écriture. Pendant la relecture, en revanche, pensez à l'autre, inventez s'il le faut un lecteur type différent de vous et voyez comment il interprète ce qu'il lit et réagit à ce que vous avez écrit. C'est comme ça que vous fonctionnez, vous, c'est un peu le secret du succès de vos romans.
Ouais, un bon romancier est un bon schizophrène, capable d'être à la fois dans sa peau en écriture et dans la peau de quelqu'un d'autre quand il se relit. Non mais je crois que c'est essentiel d'avoir cette distinction. Il faut vraiment être dans un plaisir égoïste au moment de l'écriture. Si vous n'êtes pas heureux au moment de l'écriture, si ça ne vous procure pas une émotion forte et positive, ça va être difficile de la transmettre ensuite au lecteur pour que lui ait du plaisir à vous lire. Et une fois qu'on s'est fait ce petit plaisir-là, plus tard, on essaye d'être dans la relecture, de se mettre dans la tête d'un autre ou d'une autre et d'imaginer parfois même quelqu'un qui puisse être exigeant, etc. En tout cas, le destinataire du type de livre qu'on est en train d'écrire, en tout cas d'écriture qu'on est en train de mettre en place.
Et est-ce que vous avez toujours, ça c'est la question qu'on se pose quand on lit un roman bien ficelé comme les vôtres, un thriller où tout semble parfaitement collé, est-ce que quand vous commencez la première ligne de la rédaction, vraiment proprement dite, du roman. Est-ce que vous connaissez vraiment la fin? Est-ce que vous connaissez tous les détails du livre, toute la structure, je dirais, de l'intrigue? Ça, c'est déjà dans un plan que vous faites avant de vous lancer dans l'écriture, ou c'est au fil de l'écriture que ça se construit?
C'est assez rare que j'ai absolument tout le livre en tête. En revanche, je sais comment je commence. Très souvent, normalement, je sais comment je vais terminer et j'ai des grandes articulations. Ce qui ne veut pas dire que je vais tout respecter et que parfois je pars en ayant un plan précis en tête et finalement je me rends compte que le plan je ne l'ai pas du tout respecté parce qu'à mesure que j'écrivais, l'histoire commandait des changements qui étaient plus intéressants ou des idées qui me venaient à mesure d'écriture me semblaient beaucoup plus intéressantes et pertinentes que celles que j'avais eues initialement. Donc c'est bien, je pense, d'avoir une idée de l'endroit où on va, surtout quand on fait un thriller, parce qu'il y a quand même une mécanique assez particulière à mettre en place, de la documentation souvent assimilée, etc. Donc c'est bien de savoir où on va et pourquoi on y va, parce que c'est pas tout d'avoir une idée. Moi je pense qu'un bon thriller, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'un bon thriller, c'est l'idée policière que vous allez avoir, mais c'est surtout pourquoi vous avez eu cette idée et qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'illustrer du monde dans lequel on vit. Et c'est bien pour ça de savoir où on va et pourquoi on y va, donc d'avoir une espèce de plan général, même si on n'est pas obligé de le respecter, encore une fois.
Est-ce que vous en avez arrêté beaucoup des romans, Maxime Chatham?
Vous voulez dire arrêter en cours d'écriture ?
Oui, en cours d'écriture, que vous avez mis alors au fond d'un tiroir ou même jeté ?
Non, pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Et en général, je peux vous dire que quand je les arrête, au bout d'un moment, quand je finis par y revenir, quelques mois, parfois quelques années après, après, quand je relis et que je comprends pourquoi je l'ai arrêté et que j'estime que c'est pas intéressant, je le supprime. Je veux résister à la tentation. Vous savez, j'ai toujours peur de, aujourd'hui tout va bien, mais imaginez dans quelques années, j'ai plus d'inspiration, je suis obligé de reprendre un vieux texte.
Eh oui,
et pourquoi je publierais quelque chose que j'estimais pas bon à une époque? Donc je préfère me passer toute forme de tentation pour moi. Et on sait jamais, peut-être si un jour je décède, qu'on ne voit pas des bouquins paraître post-mortem, qui soient des grosses bouses, on va le dire.
L'inédit de Maxime Chatham. On verra Faustine qui sortira
oui,
tout ça.
Passez-nous votre femme tout de suite, là.
Un petit mot perso, parce qu'on sait que vous êtes avec Faustine Bollard, que nos auditeurs connaissent bien, les téléspectateurs connaissent bien aussi.
Oui.
Elle vous dit souvent, le confinement n'a pas vraiment changé son rythme de travail. Notre couple s'est bien adapté avec humour au confinement. Quand je lui parle un peu trop de fringues, il me dit qu'il est vraiment temps que je retrouve mes copines. Le confinement, c'était bien, mais c'était bien que ça dure pas plus de 55 jours, quoi.
Bah, c'est-à-dire, je vous cacherai pas que à la 150e nuance de gris pour repeindre la salle de bain, j'ai commencé à dresser le pavillon blanc.
Oh Maxime, j'ai envie de vous prendre dans mes bras. J'ai vécu la même chose. La nuance de gris, c'est tout
mais
à fait
ceci
ça.
Dit, j'ai trouvé ce confinement formidable parce que c'est le meilleur moyen de vous prouver que vous avez trouvé la personne parfaite, puisque ouais. Quand vous sortez de ce confinement en ayant le sentiment que il y a jamais eu un jour de trop et qu'au contraire c'était un moment formidable dont on a, enfin formidable, attention toute proportion gardée, hein, je vous parle juste du côté de se trouver voilà en tête à tête avec celui ou celle qu'on aime et de se rendre compte qu'au bout de ces presque deux mois tout s'est très bien passé et qu'on est toujours aussi heureux l'un que l'autre, il y a au moins parfois du bon à tirer de ce moment donc, un peu difficile.
Donc là, Eva tape tout simplement sur la table du Je te le donne des grands
Caramba,
coups.
Caramba, encore raté.
Oui, non, encore raté, ouais. Maxime Chatham et Maquet.
Je ne pourrais pas vous choper.
Maquet, voilà. Tant pis pour vous, Eva Rock. Maxime Chatham, on rappelle votre dernier roman, Insectes, aux éditions Albin Michel. Merci de nous avoir fait un petit coucou cet après-midi. Et la bise à Faustine, bien sûr.
Avec plaisir, à bientôt.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et Varoc et à présent l'un de nos correspondants, Jean-Luc Bougeant.
Vieillir, c'est moche.
Exact.
Mais c'est dans la logique des choses pour nous, être de chair et de sang. Alors que pour un tableau, vieillir, c'est beaucoup plus rare. C'est l'incroyable histoire que nous raconte aujourd'hui Jean-Luc Bougeant, notre correspondant à Lyon, qui nous emmène non pas à Oslo, comme il m'a dit, puisque ce n'est pas Oslo que ça se passe, le tableau vient d'Oslo, mais il a été rapatrié à Grenoble. Des chercheurs grenoblois se sont penchés sur cette toile. Sur le papier, c'est très bizarre, mais faites-lui confiance. La dernière fois, il avait subjugué notre invité Marianne James.
Mais moi, je veux absolument entendre Monsieur Jean-Luc Bougeant pour avec sa membrane. Là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que Serge Ferrari.
Marianne veut voir ma membrane.
La membrane.
Alors Jean-Luc, on ne sait pas comment ça s'est terminé avec Marianne. Là, on n'a rien compris de votre sujet du jour. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'on va parler du tableau de Munch, le célèbre Le Cri. On a tous en tête. Qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Il vieillit prématurément, c'est ça?
Ouais, il se dégrade grave, on pourrait dire.
Tellement jeune.
Ce tableau, c'est l'un des plus célèbres et des plus chers du monde. Il y en a 5 versions et l'une de ces versions s'est vendue en 2012 à 120 millions d'euros. Donc, il y a un peu de l'enjeu. Et ce tableau, la version originale en tout cas, se dégrade gravement. En fait, les jaunes ont viré au blanc cassé. Alors vous, ça vous paraît rien. Nous et vous, on ne se rendrait compte de rien, mais pour une telle œuvre, ce n'est pas possible, ça en change complètement l'aspect. Et c'est un constat vraiment alarmant qu'ont fait le responsable du musée d'Oslo, où le tableau est conservé aujourd'hui, mais conservé sans être visible du public. Justement, à cause de cette dégradation, on ne l'expose plus, on n'ose plus le montrer, ce qui est quand même une grande perte. Du coup, une équipe de chercheurs italiens s'est penchée sur l'œuvre pour essayer de trouver la cause de cette dégradation, mais ils n'avaient pas toutes les données et ils ont fait appel Cocorico à l'équipe du synchrotron de Grenoble. C'est pour ça que je vais vous parler de chercheurs grenoblois.
C'est quoi le synchrotron? Il y a un truc de science-fiction, Jean-Luc?
Ouais. C'est un anneau géant qui émet des rayons X, qui est construit à Grenoble depuis les années 70. Et avec ces rayons X, ces lignes de lumière, on peut analyser extrêmement finement tous les matériaux, y compris les pigments de peinture. Et c'est ce dont on va avoir besoin ici.
Et contrairement à ce que j'annonçais dans le lancement, parce que je n'avais rien compris, le tableau de Munch n'est pas venu à Grenoble.
Non, on ne peut absolument pas le déplacer. On ne prend pas non plus le risque. Hein, les assureurs ne le voudraient pas. Donc, ce sont de minuscules fragments de peinture, des micro-prélèvements qui sont arrivés récemment à Grenoble et qu'on a observés dans la capitale des Alpes, au synchrotron, explique Marine Cotte, qui est chercheuse au synchrotron.
Pour vous donner une idée, la taille des prélèvements, c'est de l'ordre ou c'est plus petit que le diamètre d'un cheveu. Le prélèvement, on ne peut pas voir qu'il a été fait. Enfin, c'est vraiment le but. Hein. Il ne faut surtout pas que ça endommage l'aspect de la peinture. Les prélèvements sont vraiment petits. Quoi. Nous, on les observe sous microscope, mais sans microscope, c'est un tout petit point. Quoi.
Et alors, finalement, quelle est la conclusion des scientifiques? Qu'est-ce qui explique cette dégradation?
Eh bien, en fait, c'est l'humidité qui altère les couleurs et ça a son importance parce que ça va permettre de modifier ces conditions de conservation, explique toujours Marine Cotte.
À l'heure actuelle, il est conservé à 50% d'humidité, ce qui est vraiment le standard. Et là, avec l'étude qui vient d'être faite, eh bien justement, ça permet de dire aux conservateurs comment ils peuvent améliorer la conservation du tableau. Là, en fait, ils sont en train de construire un nouveau musée où sera transféré le musée actuel. Et sur la base de cette étude, ils sont en train de voir s'ils peuvent conserver les peintures, ou en tout cas le cri, dans des conditions, on va dire, un peu plus sèches, quoi.
Voilà. Et donc,
ouais,
peut-être
ça
n'a
pas l'air si compliqué quand même. Enfin,
un bon
dire...
Dyson pur and cool et une bonne condition de...
Ouais, ouais, ça assèche l'air.
Non, il fallait en être sûr. Ouais, en fait. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire des choses aux doigts mouillés, si je puis dire.
Ah oui, oui, c'est le cas de le dire.
Donc, fort de ces informations, c'est là l'enjeu, en fait. Peut-être que si on arrive à créer une pièce où les conditions de conservation sont bonnes, on pourra à nouveau voir ce tableau exposé. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir le voir, ou uniquement en reproduction, uniquement sur des couvertures de livres, etc. Donc, quand ce nouveau musée sera construit, dans quelques années, on pourra faire une pièce qui lui sera dédiée avec les bonnes conditions de conservation
et
de ce tableau.
On ira tous à Oslo, bien compris. Bon, merci Jean-Luc. Et en fait, vous vous souvenez de la petite requête d'Eva ?
Sexto, d'accord. Et tu vas en recevoir plein dans la journée.
Merci pour elle. Merci pour
Europe 1,
16h, 18h.
L'équipe est sauvage.
Et rendez-vous demain dès 16h sur Europe 1.